Bonjour Philippe Lambertz.
Bonjour.
Le CETA, l'accord de libre-échange entre l'Europe et le Canada, ne sera pas signé aujourd'hui. Le sommet qui était prévu dans la journée a été annulé hier soir. La Wallonie n'a pas cédé et n'a donc pas donné son accord au gouvernement fédéral pour valider l'accord. Peut-on dire ce matin que la Wallonie a eu la peau du CETA, en tout cas dans la version qui devait être adoptée ?
Non, du tout. Donc les négociations se poursuivent en Belgique et pour ce que l'on en sait, évidemment, nous ne sommes pas dans la salle de négociation. La Wallonie, jusque maintenant, n'a pas été en mesure d'extraire la moindre concession substantielle par rapport au texte du traité. Autrement dit, l'objectif de la Wallonie était la réouverture du traité et le changement d'un certain nombre de dispositions, et on pense en particulier aux tribunaux arbitraux. Et jusque maintenant, ça n'a pas été le cas. Et ce qui se profile à l'horizon plutôt, ce sont des codicilles additionnels au traité, mais dont la force légale est assez peu, est en tout cas incertaine, et qui en fait n'apporte pas grand-chose aux autres déclarations interprétatives qui avaient déjà été émises la semaine dernière et les semaines précédentes, notamment après le jugement de la Cour constitutionnelle allemande. Donc apparemment, il n'y aurait jusque maintenant rien de neuf.
Mais autrement dit, la Wallonie ne cédera pas et n'acceptera pas que le CETA soit adopté dans son écriture actuelle.
Ça reste à voir, parce que les rumeurs qui nous viennent des salles de négociation, c'est que finalement, la Wallonie accepterait ces concessions superficielles, mais rien. Jusque maintenant, rien n'est prouvé. Donc, nous ne faisons pas partie de la majorité du gouvernement wallon, et donc nous le soutenons aussi longtemps qu'il luttera pour obtenir des changements substantiels. Mais s'il ne les obtient pas, ben là, évidemment, notre soutien disparaîtra.
Alors, pour vous, Philippe Lambertz, l'objectif de ce traité, je reprends vos termes, c'est la soumission des processus de décision législative aux intérêts des multinationales. Cela se manifeste, dites-vous, par ce que l'on appelle pudiquement la coopération réglementaire et par les tribunaux arbitraux qui donnent un pouvoir d'intimidation aux multinationales. Les partisans du traité disent, eux, que les tribunaux arbitraux ont été très encadrés dans la rédaction du texte. Pas suffisamment à vos yeux ?
Mais écoutez, la question n'est pas de les encadrer, la question c'est en a-t-on besoin ? Je peux comprendre des multinationales qui iraient, par exemple, s'installer en Chine. Je peux comprendre qu'elles se disent qu'elles ont une confiance limitée dans l'état de droit en Chine. Mais ici, on vous parle du Canada et de 28 États membres de l'Union européenne, c'est-à-dire des pays qui ont une tradition d'état de droit, qui ont une justice indépendante. Je ne vois pas pourquoi nous avons besoin d'une justice parallèle, qui plus est, accessible exclusivement aux multinationales. Donc, un État qui voudrait attaquer une multinationale qui aurait quitté le pays en laissant derrière elle un désastre écologique, eh bien, n'a pas de moyens d'attaquer cette multinationale devant ses juridictions. Et donc, en réalité, il nous proposait une voiture diesel, nous l'avons refusée, il nous propose maintenant une voiture électrique, nous refusons toujours parce qu'on n'a pas besoin de voiture, on a besoin d'un vélo. Mmh. Et donc, franchement, on continue à nous faire croire qu'on a besoin de ces tribunaux arbitraux. L'insistance quasi maniaquement obsessionnelle des défenseurs du CETA à mettre ces tribunaux arbitraux dans ce traité prouve qu'en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que le bénéfice économique du traité, on parle dans le meilleur des cas de 0,1% du PIB conjoint de l'Europe et du Canada. Autrement dit, c'est pas pour des raisons économiques qu'on fait ce traité. Et donc, moi, ce que je constate, c'est que s'il ne s'agissait que d'un traité commercial, c'est-à-dire fixer des conditions d'accès au marché, fixer des normes techniques communes, abaisser les droits de douane, le CETA serait déjà passé sans aucun problème. Mais ils ont absolument voulu insérer dans ce traité les dispositions de protection des investisseurs, comme ils le disent pudiquement, et qui sont en fait des dispositions qui visent à verrouiller le pouvoir des multinationales. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Et c'est ça qui justifie la résistance vraiment très forte de la société civile dans une série d'États membres, notamment en Belgique francophone. Et donc, il ne faut pas s'étonner qu'aussi longtemps qu'ils s'obstineront à insérer ces dispositions, ben, l'opposition de la société civile demeurera.
Alors, il y a un autre point qui vous préoccupe et que vous avez dénoncé, c'est la coopération réglementaire. Qu'est-ce qui se cache derrière cette formule ?
Ben, ce qui se cache derrière cette formule, grosso modo, c'est ceci. C'est que dès que le traité est signé, il y aura un dispositif par lequel, au cas où un des deux partenaires, Canada ou Union européenne, voudrait adopter de nouvelles dispositions réglementaires, un conseil d'experts, et comme vous savez, les experts sont rarement indépendants, un conseil d'experts pourrait donner une indication selon laquelle, bah, écoutez, si l'Europe, par exemple, veut interdire les perturbateurs endocriniens, regardez l'étude du Monde il y a quelques jours qui indique que l'augmentation de l'incidence des cancers est probablement due à des perturbateurs endocriniens, en tout cas dans beaucoup de cas. Mmh. Supposer que l'Europe veuille les interdire et que le Canada ne veuille pas, eh bien, ce conseil d'experts pourrait dire, écoutez, ça créerait une distorsion de marché entre Europe et Canada, et donc nous vous conseillons fortement de ne pas le faire. Alors c'est vrai que dans le traité avec le Canada, vu l'opposition manifestée par beaucoup, cette coopération réglementaire devient volontaire seulement. Autrement dit, ce conseil d'experts n'aurait pas de pouvoir contraignant de dire au Canada ou à l'Union européenne, ne légiférez pas. Mais dans ce qui se préparait, en tout cas dans la version initiale, il s'agit d'un conseil qui avait un pouvoir contraignant. Donc vous imaginez des experts qui disent à des législateurs, ça, vous ne pouvez pas faire. Mmh. C'est évidemment de nouveau une limitation, un cadenassage de la souveraineté démocratique. Et je suis assez vieux jeu, je pense que la démocratie est hiérarchiquement supérieure au marché, que c'est elle qui fixe les règles de fonctionnement du marché et pas l'inverse.
Et que dites-vous, Philippe Lamberts, à ceux qui s'étonnent qu'une partie d'un pays de l'Union qui n'est pas, sans vous faire offense, ni géographiquement, ni démographiquement, ni économiquement l'un des plus importants de l'Union européenne, puisse à lui seul bloquer un accord que les autres pays voulaient signer?
Mais ça, c'est dû au fait que ce traité est ce qu'on appelle un traité mixte. Autrement dit, c'est un traité qui touche aux compétences européennes, mais pas uniquement aux compétences exclusivement européennes, il touche aussi aux compétences des États membres. Et justement, par où? Par la coopération réglementaire, par les tribunaux arbitraux, etc. Donc c'est un traité mixte. Donc ça veut dire que les 28 États membres doivent aussi l'approuver. Et il sait que l'ordre constitutionnel de la Belgique est tel que, à l'insistance des Flamands, il y a une vingtaine d'années, dans les réformes de l'État, on a décidé que les traités internationaux devaient non seulement être approuvés au niveau fédéral, mais aussi au niveau des entités fédérées. C'est vrai que c'est un petit peu biscornu, mais c'est comme ça.
C'est un bon exercice de la démocratie européenne, finalement?
Mais je ne me réjouis pas du fait que, pour des questions commerciales et au-delà, on doive décider de la sorte. Je pense qu'il serait préférable que les matières commerciales, mais même aussi la protection des investisseurs, soient traitées au niveau européen. Je suis d'abord fédéraliste européen et que, à condition bien sûr, que le processus de décision au niveau européen soit transparent et démocratique. Or, je vous apprends peut-être que le mandat de négociation pour le CETA est un mandat qui a été révélé plus d'un an après la conclusion du traité. Donc vous imaginez, vous avez le traité et on a maintenu le mandat secret encore après l'adoption du traité. La négociation s'est faite de manière complètement secrète. Et donc, vous avez un mandat qui est secret, une négociation qui est secrète, ce n'est pas des conditions démocratiques. Et donc, ce que nous disons, c'est que oui, les décisions devraient se prendre en la matière exclusivement au niveau européen, mais moyennant, un, la transparence totale du mandat de négociation qui devrait être un acte législatif co-décidé par le Parlement européen et les représentants des gouvernements, c'est-à-dire le Conseil, en toute transparence. Autrement dit, les politiques qui donnent le mandat devraient être obligées d'en assumer la responsabilité politique parce que ce mandat serait transparent. Un. Deux, les négociations devraient se passer sous le contrôle des deux instances, Parlement et Conseil, de sorte qu'il n'y a pas de surprise à la fin. Le Parlement et le Conseil peuvent donner des instructions aux négociateurs pour qu'ils respectent le mandat. Moyennant ça, ça devrait se passer au niveau européen.
Merci Philippe Lamberts. Bonne journée, merci.